Allez, c'est terminé pour cette semaine. Pour le temps des copains, on se retrouve bientôt pour un nouvel opus. Diffusion de cette émission le dimanche à 9h et le mardi soir à 20h. Bye bye. Sur
RVE, bonne matinée. Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, après une semaine d'errance, ils mettent enfin pied à terre à Valence. Les tout premiers migrants secourus par l'Aquarius au large de la Libye sont arrivés il y a une demi-heure dans le port espagnol, accueillis par des banderoles, des ambulances et plus de 2000 bénévoles. D'autres arrivées sont prévues vers midi. En tout, 630 personnes seront débarquées. Justement, la marche solidaire et citoyenne en soutien aux migrants partis fin avril de Vintimille pour rallier Calais dans le Nord fait étape aujourd'hui à Paris en France. Elle s'élancera de la place de la Bastille à 16h en présence notamment de Cédric Héroux, ce paysan qui avait fait la une du New York Times est devenu le symbole de la lutte en faveur des migrants. Également présent, l'ancien footballeur Lilian Thuram. C'était pas mal, mais il va falloir jouer mieux. Pour les Bleus, c'était un premier match en demi-teinte hier au Mondial de football en Russie. Les joueurs de Didier Deschamps l'ont emporté dans la douleur, 2-1 face à l'Australie. Aujourd'hui, Costa Rica, Serbie, Allemagne, Mexique et ce soir, Brésil-Suisse. Un TER sur 2, 2 TGV sur 3 et 2 intercités sur 5. Voilà ce qui circule sur le rail. Aujourd'hui, 16e épisode de la grève SNCF qui, selon la CGT, va se poursuivre en juillet. C'est donc sur fond de perturbation que les 750 000 candidats au bac général vont commencer leur semaine d'épreuve demain avec la philo. La SNCF a promis un dispositif spécial pour mener les lycéens à bon port, des trains stratégiques assurés, des cars et des taxis à disposition, ainsi que des mots d'excuses pour les éventuels retardataires. Quelques 3000 gilets rouges seront mobilisés. Si personne interpellée, une centaine de casseurs cagoulés et quelques heures avec les forces de l'ordre. C'était hier à Bar-le-Duc dans la Meuse. Plus d'un millier de personnes étaient venues manifester contre un projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. Et puis, on l'a appris hier, un concert aura lieu jeudi prochain pour la fête de la musique dans les jardins de l'Élysée. Pendant 4 heures, de la musique électronique Made in France résonnera dans la cour d'honneur. Au menu notamment le DJ star Kavinsky ou encore Chloé, l'une des rares femmes de la scène électronique française qui s'exporte à l'étranger. Bonne journée.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce Tribune Sport du dimanche 17 juin en configuration mondiale. On a une partie d'équipe qui profite encore d'un petit week-end de repos, mais qui sera là dans les prochaines semaines. Mais on est ravi en tout cas ce matin d'accueillir notre ami Stéphane Desenclos du foot. Stéphane, bonjour. Ça va bien? Ça nous rappelle 20 ans en
exactement,
arrière, hein, 98, 1900. Qu'on avait suivi ensemble. On va naturellement parler de ce début de mondial. Hein. On reviendra aussi un peu sur l'anniversaire des Bleus. Hein. Et puis avec nous, des Stéphanois, Bibi Moreau. Ça va, Bibi?
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ça
c'est
va,
bon impeccable. Début de mondial.
Impeccable, oui.
Très bien. On va saluer aussi Lucky. Salut
bonjour
Lucky.
Bonjour à tous.
Voilà. Et puis notre ch'ti, il vient d'arriver, Francis Coche.
Bonjour. Salut à Francis. Tous et à toutes.
Comment
bonjour
ça va,
Philippe, ça va bien.
Voilà. Et puis c'est la fête des papas aujourd'hui. Donc naturellement, on va faire comme on a fait il y a 3 semaines. Hein, à l'occasion de la fête des mamans, on va souhaiter naturellement une bonne fête aux très nombreux papas qui nous écoutent, qui sont passionnés donc notamment de sport et de foot. Alors messieurs, le mondial est parti, l'équipe de France hier s'est imposée 2-1 contre l'Australie. J'allais dire Stéphane que allez, on a assuré l'essentiel.
Exactement, je crois que le mot laborieux peut être tout à fait adapté à ce match, très très compliqué. Mais bon, à la limite, est-ce que justement les 3 points sont pas d'autant plus bons à prendre et agréables à prendre et savoureux à prendre après un match comme ça, effectivement, jusqu'à 10 minutes de la fin, on voyait pas trop comment on allait s'en sortir.
Bon, on s'en tire bien parce que 1-1 ça aurait pas été une injustice non plus, hein. Tant mieux pour nous, hein.
Exactement. Mais après, ça dépend parce que c'était aussi pour faire un match de foot, hein, un bon match. Mais bon, on a coutume de le dire, mais un match de foot, faut au moins 2 équipes, quoi. Et puis on peut pas dire que les Australiens ont vraiment joué le jeu, quoi. Ils ont joué le jeu du résultat, voilà.
Ouais, ils ont joué leur style de jeu. On s'attendait un peu à rencontrer ce genre d'équipe.
Un peu dur.
Tactiquement, défensivement.
Ils sont un peu rugueux. Ouais. En fait, c'est les ratés du rugby qui jouent au foot en Australie. Oui, c'est vrai, ils sont quand même à jeu quand même assez. Mais
en plus, c'est pas tout à fait les mêmes règles le foot australien que le football européen du moins ou universel quasiment. Et c'est vrai que c'est un peu plus rugueux.
La culture, c'est le rugby, le foot australien et tous ceux qui arrivent pas dans le rugby, dans le foot australien, ils vont dans le soccer.
En tout cas, ils étaient venus au Stade de France il y a quelques années, ils ont été battus 6-0 aux Australiens en match amical. Ouais. Donc, on s'attendait quand même à ce genre de match, Stéphane, sincèrement, entre nous, après les matchs de préparation. Bon, on sait qu'il y avait eu la victoire contre l'air 2-0. Bon, une équipe assez faible. Un plutôt bon match contre l'Italie 3-1. Puis on a eu quelques petits doutes après le match contre les USA, un partout. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce genre de match?
Je vous avoue franchement, honnêtement, que moi non. Je m'attendais pas à ce genre de match. À ce genre d'équipe en face, voilà. Oui. Mais j'avais plutôt pronostiqué un 3 ou un 4-0.
Moins parce 2-0.
Pareil.
Mm-hmm. Je m'attendais surtout pas à ce genre d'équipe de France, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire une équipe de France très 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 moyenne, à l'image, on en parlait avant l'antenne, hors antenne, d'Antoine Griezmann. Et voir un joueur de ce niveau jouer un tel match, c'est vrai que ça je m'y attendais pas du tout, quoi. Je m'y attendais absolument pas.
Alors l'essentiel c'est d'avoir gagné. Bon, on sait que par le passé, des fois l'équipe débute moyennement puis monte en puissance. On peut espérer que ça sera mieux contre le Pérou.
Il faudra.
Et 3 points. Donc déjà c'est bien.
Ah, il faudra. Mais on peut effectivement, comme tu le disais, Philippe, on peut déjà simplement donner un exemple, une petite anecdote. 2010. L'Espagne perd son premier match contre la Suisse et finalement est championne du monde. Et après, je crois qu'ils ont gagné leur deuxième match de façon assez laborieuse également. Et tout le monde les voyait pratiquement déjà retourner à la maison. Il y avait des gros problèmes au sein de l'équipe, quoi. Bref. Et donc, finalement, ils sont champions du monde.
Qu'est-ce qui a manqué hier à l'équipe du Lyon, entre les lignes, notamment? Monsieur?
Oh, il manquait un milieu de terrain digne de ce nom, à mon avis. Mais pour en venir au match d'hier, je pense qu'on a retrouvé hier l'équipe qu'on a vue contre les États-Unis, quoi. C'est-à-dire pas créatif du tout, qui manquait de peps, de jus, et d'un organisateur, c'est clair. On n'a pas Platini, on n'a pas Zidane, on n'a rien.
Il n'y a pas de ligne, on n'a pas d'épine dorsale, en fait. Il faut une épine dorsale dans une équipe de foot. Le gardien, le défenseur central, le milieu de terrain, l'avant-centre. Il nous manque quelqu'un. Et secondo, il faut surtout dire sur le match d'hier, tout ce qu'on peut dire, c'est surtout merci à la technologie.
Oui.
Parce que vous tirez la technologie hier, la Golden Line, on perd le match.
Oui, ça c'est le grand point positif de ce début mondial.
Il
n'y
a pas de pénalty, il n'y a pas de but.
Il n'y a pas de pénalty, il n'y a pas de but. Et il n'y a pas la Golden Line, il n'y a pas de but non plus.
Il y a la main du Mtiti.
Oui, en plus.
Donc celui-là, ça aurait été il y a 4 ans ou il y a 8 ans, on peut considérer que le match d'ouverture était perdu.
Alors moi je crois que sur le match d'hier, je pense qu'on a eu affaire à des adversaires qui avaient quand même bien préparé leur match, hein, parce que l'équipe de France certes était pas brillante, mais enfin on peut pas non plus une Coupe du Monde, on arrive, il y a quand même 32 nations qui sont bien préparées, qu'observent les adversaires. La main d'Umtiti, s'il y avait pas été, ça aurait peut-être changé le cours du jeu. On a quand même une équipe de France très jeune, qui se rôde. C'était pas brillant, mais enfin bon, voilà. Je crois que les adversaires en face étaient surtout très bien préparés aussi.
Ils étaient très bien préparés, ils avaient bien étudié le jeu.
Voilà,
il y avait
tout.
Toujours deux.
Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé aussi avec les États-Unis. Justement, les États-Unis, c'était un très bon test. Voilà. Bon, c'est vrai que tout le monde, mis à part Philippe et certainement moi, rêvait d'un gros score. On a vu l'Argentine contre l'Islande, ça fait pareil. Hein.
Oui. Bon, on s'attend. Oui, mais on a eu des actions.
Oui, d'accord. Mais hier, c'était tellement. Enfin, on a vu.
À contrario, on a vu Espagne-Portugal.
Oui, on va en parler. Ça, c'est le match.
C'était beau, mais enfin, ils en ont pris quand même 3 chacun. Hein. Ouais. Ça a joué, mais ils ont pris l'Espagne après 3 buts.
Ils ont
pas
le choix.
Voilà, oui, mais voilà, donc faut peut-être réfléchir
c'est la
aussi.
De ces deux pays, on en prend un, il faut égaliser.
Si on était tombé contre une équipe qui jouait un peu plus au ballon, je pense, hier, ça aurait certainement.
Ils étaient venus pour défendre, c'était clair. Voilà. Il y avait 2 ou 3 gars sur chaque joueur. Donc.
Alors, justement, est-ce qu'on ne s'exprime pas mieux face à des équipes qui jouent?
Voilà, tout le monde dit le Pérou, il faut craindre le Pérou. Moi, j'ai pas peur du Pérou, il joue. Il joue.
L'équipe de France, ils vont moins jouer.
Ouais, mais
là, ils n'ont pas le choix. Mmh. Ce qui nous sauve, c'est qu'ils n'ont pas le choix.
Ils ont perdu hier. Donc
là, il leur faut un match nul minimum.
Ah, c'est sûr, s'ils veulent finir dans les deux premiers,
ça va ouvrir le jeu.
Et le Danemark sera dans la même position. Ça sera peut-être le match, la qualification.
Le pire, c'est le Danemark. Hein. Parce que dans les têtes, on n'est pas bien avec le Danemark. On n'est jamais bien.
Ah, là, ça dépend. Il y a eu des. Ça dépend.
Ces derniers temps, on n'a pas été.
Ça dépend.
Je donne pas cher des chances des Australiens face aux Danois. Moi.
Ouais, ouais,
c'est,
ouais.
C'est un peu le même genre de foot. Ça va jouer physique, ça va être solide, ça va être dans les duels. Et là, les Danois, ils vont avoir du répondant. Et je donne pas cher. Je pense que les Danois vont battre les Australiens plus facilement que nous, on a réussi.
Oui, puis c'est le premier match. Hein. On sait qu'au fil des matchs, il y a des équipes qui sont à fond déjà dès le début.
Ouais,
et puis après qui hein.
puis c'est ça, puis je pense qu'il y a plein de facteurs à prendre. On attendait peut-être trop vite, enfin tout le monde attendait l'équipe de France trop vite aussi. Bon, à un moment faut les laisser monter en puissance, ça n'a pas été beau, c'est sûr, mais bon après voilà, ils ont joué tôt, la préparation, enfin il y a plein, tout le monde y met un peu sa graine là.
Moi ce qui m'embête un peu dans l'équipe de France, c'est que comme disait
Francis,
Le gros problème, c'est qu'on n'a pas de leader. Quoi. Le leader, il est dans les buts. Bon, moi, j'aime bien Loris.
Hier, c'est parfait ce qu'il fait, Loris. Ouais, hein. Hier, il nous sauve. Hein.
Ah, oui, voilà. Non, lui qui a été Loris. Tellement critiqué non, là, ces derniers temps, heureusement, il nous sauve. Hein.
Non, mais à côté, quand on regarde Barthez, qui n'était pas capitaine, il a plus de gueule que Loris.
Oui, là, dire,
bon, voilà, le problème, c'est que le capitaine, il est à l'autre bout du terrain. Ça, c'est pas bon.
Barthez, il a pris.
J'adore Deschamps.
Voilà, Barthez, il a pris de la gueule aussi au fur et à mesure où la compétition avançait.
Hein. Rappelle-toi, même à l'OM déjà, il avait déjà Lagna qui pilotait toute sa défense. Il n'était pas capitaine. Il était capable d'aller avec le ballon jusqu'au milieu de terrain. Non, je pense que là, on a franchement un problème de leader. Alors, au début, on a tout misé sur Pogba, mettons. Pogba était censé être le leader de l'équipe de France, un super milieu de terrain qui a des grandes jambes, comme Vira. Moi, je le prenais un peu pour Vira. Bon, finalement, je suis un peu sur ma faim. Mais bon, on n'a pas de...
Messieurs, il faut attendre un peu de changement. Stéphane, il y aura quelques changements en vue contre le Pérou. On peut penser que...
On peut penser,
en milieu de terrain, peut-être.
On peut penser justement au milieu de terrain. On le disait en début de match, la grosse contre-performance du match, c'est, je pense, essentiellement, effectivement, au milieu de terrain. Et donc, je pense que là, il va y avoir des changements. Personnellement, je serais pas surpris de voir. C'est pas forcément le changement que moi j'aurais voulu, que je souhaiterais, mais je serais pas surpris de voir Matuidi débuter le match à la place de Tolisso, qui a été en dessous, qui a été très 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 limite dans ce match-là. Après, derrière, peut-être que Deschamps s'interroge aussi
ou
derrière.
Titi, voilà. Titi, avec ça fait quelques matchs.
Faire entrer Rami. Moi, c'est pareil. Si c'était moi, même au départ, je compterais plutôt sur un Kimpembe, même très jeune et tout, mais je compterais plus sur lui. Maintenant, je pense qu'on peut s'attendre à effectivement. Et puis pareil, à la place de Tolisso, moi je ferais rentrer Fekir à la place de Tolisso. Oui.
En tout cas, grand point positif, c'est les latéraux quand même. Hein. Pavard et puis Lucas Hernandez, ça c'est bien.
Pavard, Fernandez, c'est les deux meilleurs du français.
Ouais, on voit tout de suite qu'ils ont la rage. Ça se voit direct. C'est comme Lizarazu, c'est deux chiens.
Quand on pense qu'il y a 3 mois, il y a 4 mois, moi autant que les autres, tout le monde, la grande interrogation, c'était on n'a pas de latéraux en France. On n'a pas de latéraux en France, quoi. Moi, même Pavard, il était pas mal, mais c'est hier surtout moi qui m'a vraiment, vraiment convaincu, et c'est lui qui, je l'ai trouvé vraiment très, très bon, quoi.
Ah oui, oui.
Très, très
même bon. Déjà dans les matchs de préparation, les matchs amicaux, il avait été bon aussi déjà. Hein.
Il n'avait pas joué longtemps,
contre le Pays de Galles, on l'avait découvert, il avait fait une bonne entrée. Bon, en tout cas, cette équipe de France, dans sa préparation, est-ce qu'il n'y a pas l'image quand même de 98 qui plane? On fait toujours référence à 98.
Bah oui, parce qu'on n'a pas d'autres références, en fait.
C'est pas un peu...
C'est le seul qu'on ait.
Est-ce que...
Si jamais eux, je le souhaite de tout mon cœur, hein, même si j'y crois pas beaucoup, malheureusement, mais si jamais eux gagnaient la Coupe du Monde, on aurait deux références, ça serait pratique. On aurait plus de...
Et le plus important, c'est que les joueurs s'en servent justement de cette référence.
Oui,
ben
voilà.
Il faut leur passer en boucle.
Ouais, mais j'ai confiance, tu vois, c'est là où... Pour une fois, je suis pas trop d'accord avec mon ami Lucky. C'est très rare. Mais moi, j'ai confiance en eux parce que après, c'est tellement difficile une Coupe du Monde. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure. La moyenne d'âge, c'est jeune. Il a fallu se lancer et tout. C'est bien. Ça leur a servi d'exemple. On va voir. Peut-être que je me trompe, hein. Mais on va voir. Et il n'y a pas de grosses équipes cette année. Qu'est-ce qu'il y a comme cador cette année à la Coupe du Monde, quoi? Enfin, même
il y a le Brésil quand même qui a fait une série.
Oui, mais enfin ça casse pas des briques, je veux dire.
On va voir.
Je pense qu'on va voir aujourd'hui Portugal.
Je suis pas un pro Portugal moi
de l'équipe hein. Mais je pense que l'Espagne pendant le match en tout cas
le Portugal on enlève Ronaldo il y a quoi enfin ils ont fait
non mais oui mais l'Espagne est énorme l'Espagne on enlève qui Costa Diego Carlos
non mais le Portugal ils ont un leader
oui mais
et on peut dire retirer Ronaldo il y a plus rien en attendant
oui je suis d'accord avec toi mais non mais
l'Espagne
si les joueurs français jouent à leur niveau, dites-moi pas qu'on est plus ridicule que les autres, quoi.
Ah non, non, non.
On est peut-être alors, on gagnera certainement pas la Coupe du Monde, mais je pense.
Mais l'Espagne a plus d'expérience que nous.
Oui, mais enfin après, tu sais, l'expérience sur un match.
Justement, sur un match, l'expérience ça compte, c'est ce qui fait la différence.
Espagne, Brésil, Allemagne, ça me paraît quand même.
Ils sont bien plus forts que la France.
Bien plus fort que le Portugal, bien plus fort que l'Argentine, bien plus fort que la Belgique, qui sont les équipes, à mon avis, qui sont un petit peu les outsiders.
Mais l'Argentine hier, il y en a beaucoup qui passent à ça du poteau. Hein. Regardez le match, hein. J'ai regardé le match.
Oui, j'ai regardé.
Je l'ai regardé après en replay avec les grandes actions. Et regardez le match de l'Argentine, ça passe à. Il y a 4-5 tirs qui passent à 5 cm du poteau.
Hein. Je pense que c'est une équipe qui va. À mon avis, il va y avoir beaucoup de changements. C'est une équipe qui, au cours de la Coupe du Monde, l'équipe argentine va beaucoup évoluer et tout. Il a quand même beaucoup de joueurs. L'entraîneur, il a un banc énormément riche. Il y avait Dybala, Lo Celso sur le banc. Et quand on voit, par exemple, Mascherano, pour prendre en exemple Mascherano, je pense qu'il est plus au niveau. Je pense que l'équipe, elle va s'améliorer. Mmh. Moi, l'Argentine, je la vois redoutable.
C'est vrai qu'on dit ça chaque année, puis on est un peu déçu, cette équipe. On verra le Brésil ce soir. On joue contre qui, le Brésil?
La Suisse. La Croatie hier, je sais pas si c'est dans le programme, hein, mais la Croatie hier, quand on voit le nombre de joueurs, c'est des stars. Hein. C'est pareil, il faut s'en méfier de la Croatie hier, c'était le match de départ, comme nous, bon, ils cherchent un peu... Mais j'ai été épaté par le nombre de stars qu'il y a dans cette équipe. Hein.
Ça a toujours été une équipe à la base redoutable.
Ils ont au moins 7 ou 8 joueurs dans les plus grands clubs du monde.
Ah oui, oui, oui.
Mm-hmm. Plus que la France.
Comment ?
Plus que la France ?
Non.
Je dis ça un peu ironiquement par rapport à ce qu'on disait.
C'est bien.
La France, tu regardes la France, ils ont tous leurs joueurs, ils sont dans les 5 meilleurs clubs du monde.
On ne parle pas de la Croatie. Comme d'habitude, on parle Brésil, Argentine, Allemagne.
On va en parler peut-être très rapidement, la Croatie.
Mais on va en parler. Bon, alors, on va finir avec le groupe de la France. Donc le Danemark a battu Pérou 1-0, Stéphane. Donc on peut penser quand même que France-Danemark, c'est les deux équipes qui vont sortir du groupe, vu que c'est pas un match. Ça va jouer sur la deuxième journée, c'est vrai.
Ça va jouer sur le France-Pérou va être, à mon avis, le Danemark-Australie, il est gagné par les Danois, bien que les Danois m'ont absolument pas impressionné hier. Le France-Pérou va être décisif. Si jamais la France venait, par exemple, à perdre contre le Pérou, les Danois, du coup, seront moins sûrs de passer. Parce qu'il faudra absolument battre les Danois et donc en cas de défaite ils seront pas qualifiés quoi.
Bon c'est bien, on sera à Moscou pour ce match donc on verra si ça sera un match en tout cas décisif. Alors on va revenir quand même dans le début de cette Coupe du Monde hein, qui avait commencé par une victoire russe devant l'Arabie Saoudite 5-0. L'Arabie Saoudite pas du niveau.
Du niveau, c'est sûr, mais bon, on s'y attendait un peu, hein. Puis c'est un match d'ouverture, hein. Puis en plus, les Russes.
Oui, bon, enfin, c'est pas toujours des matchs à but, hein, les matchs d'ouverture. Hein.
Ouais. Les Russes jouaient devant Poutine, donc.
Oui, peut-être que ça
c'était un peu gonflé, ouais, mon ami.
Mais attention aux Russes. Hein.
Oui.
Les Russes. Non, c'est pas. C'est, je parle pas du Russe de l'équipe.
Ouais.
Je parle des hommes.
Oui.
Les Russes, tant qu'ils sont pas morts, ils sont vivants. Mais quand ils sont vivants, ils sont toujours dangereux.
Ouais.
Et ils sont chez eux. Et attention, rappelez-vous la Corée. Bon, il y a eu des petites erreurs d'arbitrage, qui sont arrivées jusque-là à l'époque. Mais les Russes, moi je pense qu'ils vont passer leur tour. Et après, quand ça va être des matchs sur 90 minutes, moi je vois bien les Russes aller au minimum jusqu'en quart.
Ah bon ?
Ouais, oui. Bon.
L'Uruguay qui a battu l'Égypte 1-0, but en toute fin de match, monsieur.
Oui, bah c'était attendu parce que l'Uruguay c'est quand même un pays qui joue quoi. Mmh. Donc même si ça a perdu de sa splendeur depuis mais ça reste quand même des équipes joueuses et puis qu'on a culture de la gagne, un peu comme l'Argentine.
Oui, bon, l'Égypte, c'est une bonne équipe tout de même. Hein. C'est une des meilleures équipes d'Afrique.
Mais bon, Salah était sur le banc, il n'a pas
Salah
joué.
Salah était sur le banc, donc c'est pareil. Hein. On enlève Ronaldo au Portugal, c'est plus la même équipe. L'Égypte, c'est pareil. Et puis Salah, c'est plus l'Égypte.
Mm-hmm. Stéphane, ce match du groupe A, alors, ce match du groupe A, l'Uruguay,
ouais, bah,
devrait sortir.
L'Uruguay...
L'Égypte, on attendra un tout petit peu mieux, on verra.
Je sais pas si on attend mieux, parce que moi, le match, je l'ai vu, Uruguay-Égypte, j'ai trouvé qu'elle était très bonne. D'ailleurs, la preuve, c'est que le sélectionneur a pas jugé bon, et je pense qu'il a eu preuve, c'est lui qui a tous les éléments en sa possession, il a pas jugé bon faire rentrer Salah. Ça veut dire que l'Égypte a fait un très bon match contre l'Uruguay. Maintenant, ils prennent un but dans les arrêts de jeu.
En toute fin de match,
En toute fin de match, sur un coup de pied arrêté. Ils sont pas très chanceux. C'est pareil que la France. On a vu des joueurs. C'est aussi ça. On a vu quand même quelques joueurs, quelques grands joueurs en ce début de Coupe du Monde. Et c'est toujours pareil, je pense, à toutes les Coupes du Monde, qui sont visiblement pas du tout au rendez-vous. Ça a été le cas de Messi avec l'Argentine. Ça a été le cas de Suarez. Encore, je crois que c'est le pire que tout. Je crois que c'est Suarez avec l'Uruguay. Parce que rater autant de trucs dans un match, c'était même un contrôle. Je crois qu'il arrivait à le rater. Donc c'était incroyable, quoi. Ça a été le cas, pour la France, bien sûr, de Griezmann. Et puis d'un autre côté, bon, il y en a. La seule entre guillemets pas la seule pour l'instant, la grosse star qui a répondu présent, c'est Ronaldo. Et après il y a des endroits où commence un peu à émerger des super joueurs, notamment on parlait des Russes tout à l'heure, le milieu de terrain russe Golovin, qui est d'ailleurs en négociation, quoi, qui est en contact avec Monaco, que Monaco aimerait bien recruter pour remplacer Fabinho ou Lemar, quoi. Bon, en tout cas, pour remplacer ces joueurs perdus du milieu, est très fort. Donc, on va voir. Moi, l'Uruguay, j'avoue que je crois pas trop à cette équipe, quoi. Franchement, je crois pas trop à cette équipe qui, d'après moi, étant quand même un peu chanceuse de battre l'Égypte.
Ok. Allez, on va envoyer la pub, la musique, et ensuite on enchaîne sur ce fabuleux Portugal-Espagne qu'on a eu l'occasion de vivre vendredi soir.
La Bastienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure reconnu au Grenelle de l'environnement, vous propose des devis gratuits pour la rénovation de vos fenêtres, portes, volets, stores, portails, portes de garage et même des prestations d'isolation de comble et maintenant d'isolation par l'extérieur. Demandez vos devis gratuits à Bastienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure reconnu au Grenelle de l'environnement, showroom 27 rue de Chartres au Péray-en-Yvelines. Voir conditions magasin.
Brifo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Hello les amis, je viens de me faire plaisir à la boutique Bellamy à Rambouillet. J'y trouvais déjà des looks sympas avec barbour et un éventail de pantalons et de chemises pour toutes les circonstances. Je viens de m'offrir un total look Tommy Hilfiger. C'est un bon sportswear, c'est de bonne facture. C'est pour vous aussi, j'en suis sûr. Une offre élargie de la marque Tommy Hilfiger, ça vaut le détour à la boutique Bellamy. Un centre de la guirlande de Julie, à Rambouillet.
Et maintenant, une demi-heure sans pub. Une demi-heure sans pub sur RVE. RVE.
Tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble aux champs de blé. Dans l'ombre et la lumière dessine sur ton corps les montagnes et les forêts. Yeah. douce. Quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux, un seul coup n'est plus pur. Quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non, et tout te peut dire, mais que je t'aime. Oh, que je t'aime. Sans plus chatte, et que tu deviens chienne, et qu'à l'appel du loup, oui, tu brises enfin tes chaînes. Quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non.
C'est la pub, non? Alors on y va. Allez, c'est reparti donc pour la deuxième partie de cette émission de Tribune Sport version mondiale. Je voulais simplement dire, Francis, hier c'était la fête du sport sur Rambouillet, hein, à l'image de donc Jean-Luc Perrault, hein, qui a organisé ça comme chaque année. On va rappeler que le thème c'était la nutrition dans le domaine sportif, hein, et puis que bah voilà, on a été récompensé par un beau trophée de la communication. Fallait le dire. C'est une soirée bien sympa comme d'habitude.
Comme d'habitude, oui, tous les ans. Je remercie Jean-Louis.
Ouais, voilà. Allez, on enchaîne. Portugal-Espagne, super match. C'est pour l'instant le début, donc le match du début de ce mondial. 3-3, quel régal, messieurs.
Ouais, je crois que c'était un bon exemple. Enfin bon, c'était bien de commencer d'avoir un match comme ça dès le début, quoi. Parce que au moins ça pouvait donner.
C'est les guichons, je dirais.
Voilà, et puis dire aux autres, bon bah tiens, il y a quand même de grosses équipes. On voit un peu le niveau. Bon.
C'est vrai que c'est pas mal. Entre portugais et espagnol, ça a souvent été des matchs fermés, hein, dans le passé.
Ouais, là ça a été ouvert. Ouais, ouais. Bon, comme je disais tout à l'heure, je retiendrai qu'ils en ont pris quand même 3 chacun, donc c'est à méditer.
Ouais, mais tant mieux pour nous quand même. 6 buts dans un match et des beaux buts, hein.
Oui, mais ça prouve que leurs défenses sont quand même pas infaillibles.
Mmh. Alors, naturellement, Ronaldo, c'est le grand bonhomme de ce match pour les portugais.
Ah bah oui, hein. Je crois que là, on a... ah bah, de toute manière, c'est un super joueur.
Ouais, à l'image de son regard avant le coup franc. Hein.
C'est impressionnant. Ouais. C'est quand même un sacré joueur. Et ça, tout le monde, on a beau dire ce qu'on veut, son attitude ou quoi que ce soit, mais enfin, moi, je trouve quand même d'une élégance terrible. Il est toujours droit dans ses bottes, droit dans ses actions, droit dans ses dribbles. Il a un équilibre parfait. C'est le footballeur parfait, en fait.
Il est affûté, hein, quand on le voit physiquement. Oui. Il n'a pas un poil de gosse.
Zizou était super bon, mais il n'était pas élégant quand il jouait. Que Ronaldo. Il est tout le temps debout. C'est beau à voir. C'est un étalon.
Et puis je pense que dès le début, lui, il a envie de la gagner, quoi, cette Coupe du Monde. Mmh, mmh.
Ouais. Stéphane, c'est fabuleux ce match quand même. Hein. Espagne-Portugal, bon, il y a du grand Ronaldo. Et puis une équipe espagnole, on en parlait, qui a retrouvé une grosse partie de ce jeu, comme ça, fluide.
Tout à fait, mais ça on l'avait vu dans le match de préparation. Il faut savoir quand même. Et puis c'est quand même assez exceptionnel. C'est que les types, ils ont viré leur entraîneur 2 jours avant le match, quoi. Mmh. 2 jours avant le match. Mais je sais pas si c'est ça dépasse l'entendement, quoi.
Ouais, je veux dire, ils ont viré l'entraîneur.
La fédération.
Ils ont changé l'entraîneur.
La fédération, parce qu'il a été contacté par Real Madrid, Lopetegui, l'entraîneur. Ouais. Il a signé au Real Madrid. Et la fédération a pas supporté le fait qu'ils aient su, en fait, comme a dit le président, 5 minutes seulement avant la conférence de presse, qui partait pour le Real Madrid à partir donc de après la Coupe du Monde. Lui, il s'attendait à jouer la Coupe du Monde. Qu'ils ont décidé comme ça, hop, ils ont dit bon, c'est bon, tu dégages, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Mmh. Et ils ont pris le directeur sportif, donc Fernando Hierro, et ils ont nommé le directeur sportif à la place. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les bien-pensants du foot disent avec ça, c'est important, un coach, au bout d'un moment, les joueurs pourront pas tout faire tout seuls, ils iront pas loin. Moi, je ne partage absolument pas cet avis. Surtout qu'Hierro, il est quand même directeur sportif de l'Espagne depuis 2007, donc depuis très longtemps. Donc il connaît très bien le joueur, les joueurs, l'environnement et tout ça. Et puis c'est un immense, immense champion. Ouais. Donc je pense pas qu'il y aura rien ça, mais c'était surtout ce match-là pour moi qui était le plus risqué. Mais énorme Espagne. Beaucoup plus impressionné par l'Espagne que par le Portugal.
Oui, bien sûr.
J'étais impressionné
parce
par Ronaldo.
Parce que sans Ronaldo, bon.
Voilà. Et impressionné par l'Espagne. Sans Ronaldo, sans un penalty.
Ouais.
Qui est quand même pas il y a penalty, il est sifflé, mais qui est pas le penalty non plus le plus flagrant de l'histoire du foot. Et puis une faute de main qu'a fait de Réac, je pense que dès comme ça, il va en faire 3 dans sa carrière, un gardien de but comme
c'est,
de Réac.
C'est vrai que le point faible de l'Espagne, c'est le gardien, enfin sur ce match-là en tout cas.
Sur ce match-là, parce que sinon c'est un des gros points forts de l'Espagne. C'est quand même un des 3-4 meilleurs gardiens du monde de Réac. Donc justement, raison plus. Mais sur ce match-là, effectivement, il donne le but. Le coup franc exceptionnel de Ronaldo à la dernière seconde du match et le but donné. On enlève ça maintenant avec des si sur le foot.
C'est pour ça qu'on les commente. Hein.
L'Espagne, je pense, l'équipe espagnole, d'ailleurs en possession, mais encore une fois pareil, on va pas s'arrêter que sur la possession, mais l'équipe espagnole, je pense, est largement au-dessus du niveau de l'équipe d'Espagne. Du Portugal.
Bon, largement, ouais. Tiens, je pense qu'on a Arnaud cette fois-ci au téléphone. Est-ce qu'Arnaud, un de nos intervenants habituels, nous entend ? Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour Arnaud, bonjour Philippe, pardon.
Bon, alors Arnaud, d'abord un petit mot sur ce début de mondial. Comment tu l'as trouvé ? Naturellement, on parlait du match donc phare, hein, celui qui nous a tous enthousiasmés, Portugal-Espagne.
Bah, Portugal-Espagne, c'est un match exceptionnel. On a une fois de plus vu la classe d'un homme, Cristiano Ronaldo, voilà, qui a éclairé ce début de mondial de son talent. Mettre 3 buts dans un match comme celui-ci, surtout avec ce coup franc à quelques instants de la fin. Donc c'est exceptionnel. Et voilà, on a un mec qui continue de repousser les limites du football du 21e siècle. Donc voilà, c'est le match phare. Et on espère que ça sera à l'image de tout ce mondial-là. Et c'est vrai que le Portugal a fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle et j'ai souvent critiqué dans Tribune Foot le Portugal que l'on avait vu à l'Euro et paradoxalement je trouve ce Portugal 10 fois plus plaisant à voir qu'il y a 2 ans quand ils ont remporté le championnat d'Europe.
Et puis aussi une grande équipe d'Espagne, hein, qui a retrouvé son collectif.
Une grande équipe d'Espagne, mais compte tenu de ce qu'on avait vu en préparation, très sincèrement j'ai été déçu. Mais l'Espagne, c'est l'Espagne. Elle s'est jouée en groupe, elle s'est jouée en équipe, elle s'est jouée en bloc. Donc ça change pas malgré ce qui s'est passé avec les sélectionneurs. Mais malheureusement, enfin, quand on a pu voir, par exemple, je pense au match Espagne-Argentine il y a 2-3 mois où l'Espagne l'a emporté 6-1. Voilà, c'est pas la même Espagne et on sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas tout à fait rond pour les Espagnols. Et je pense que là aussi, il va falloir se remettre la tête à l'endroit parce que. Avant le petit scandale de Lopetegui et le remplacement par Fernando Hierro, on pensait que, logiquement, sur le papier, on aurait pu penser que l'Espagne serait largement au-dessus du Portugal, et force est de constater que non, mais je pense que ce qui s'est passé cette semaine, il joue beaucoup aussi.
Bon, alors justement, c'est bien parce que c'est un avis complètement divergent de certains d'ici, notamment notre ami Stéphane, hein, deux enclos du foot, Stéphane. On parlait justement de cette équipe espagnole qui avait retrouvé une grosse partie de son jeu.
Oui, tout à fait.
C'est pas le sentiment d'Arnaud, apparemment.
J'entendais parler Arnaud de la première mi-temps, et notamment moi, je sais que en première mi-temps, ils m'ont hyper impressionné. Et je trouve au contraire que l'évolution des sports, en tout cas par rapport à la dernière Coupe du Monde qui avait été effectivement complètement ratée, c'est qu'il semble qu'ils ont un plus qu'ils n'avaient pas ces dernières années, c'est un avant-centre, un buteur.
Diego Costa qui marque un beau but.
Exactement, Diego Costa. Et on l'attendait dans des matchs comme ça, parce qu'on l'avait encore quasiment jamais vu depuis même qu'il est en sélection dans des matchs comme ça, dans les grands rendez-vous. Là, il a marqué, il a été au rendez-vous. Je pense que c'est le plus de l'équipe d'Espagne. Et moi, au contraire de toi, Arnaud, moi, je vois vraiment l'Espagne qui était pour moi, qui aurait peut-être pu perdre le match aussi sur un coup de dé, mais qui était largement supérieur au Portugal.
L'avantage de l'Espagne aussi, c'est que maintenant ils ont un avant-centre qui a énormément de vis. On l'a vu sur le but où il y a largement faute sur Pepe. Et effectivement, avec un avant-centre comme ça en Coupe du Monde, on peut aller très loin. C'est un buteur, donc ça effectivement ça peut marcher énormément pour l'Espagne. Et là où je suis un petit peu critique, c'est que compte tenu de ce qu'on a pu voir en match de préparation, nous, au niveau de l'Espagne, je m'attendais à beaucoup mieux. Donc voilà, l'Espagne fait partie des favoris. Je pense qu'on va parler un petit peu de la France après. De ce que j'ai vu sur le premier match, je vois pas l'Espagne pour le moment avec un niveau comme celui-ci être capable d'enchaîner encore 6 matchs et d'aller au bout de la Coupe du Monde.
Bon, bah, on va voir. Hein. On verra. C'est ça l'intérêt du foot. C'est bien.
Exactement. Ceci dit, aujourd'hui, on aura l'Allemagne et le Brésil rentrer dans la compétition. Ouais. On aura peut-être le même sentiment pour une entrée. Donc voilà, après, c'est la beauté du foot. Et le Portugal, honnêtement, j'ai souvent été critique avec eux. Mais là, c'est un jeu plaisant. Il y a une attaque plaisante, c'est rapide. En défense, c'est solide. Donc, pourquoi pas.
Alors, l'équipe de France, bon là, je pense qu'on va tous être d'accord. Ça a été laborieux, difficile.
Déception, c'est... oui, j'ai vu une équipe de France décevante. Il y a un gros manque d'expérience, il faut le dire. Des gars comme Mbappé ou Dembélé devant qui n'ont pas su faire la différence. Voilà, c'est un petit peu timoré. Ça pense jouer en Liga contre Alavés ou en Liga contre Dijon, avec tout le respect que je vois à ces équipes-là. Voilà, va falloir se remettre la tête à l'endroit. On peut dire merci sur ce match-là pour moi, Hugo Lloris, parce que la parade qu'il fait encore à 0-0 en première mi-temps sur je crois c'est contré par Tolisso, si je dis pas de bêtises, c'est exceptionnel. Et surtout N'Golo Kanté qui a fait un match incroyable, parce que voilà, c'était laborieux. On peut être fier de s'en sortir avec un premier but sur un penalty avec l'arbitrage vidéo et un deuxième c'est la goal line technologie.
Dis merci à la technologie.
Ouais. Et merci à la technologie, parce que même le deuxième, on voit que la balle est rentrée, je sais même pas s'il y a un centimètre. Voilà. C'est chanceux, et mine de rien, dans le football, il faut aussi de la chance. Et là, pour le coup, on peut en être fier, mais ça a été très très laborieux. Et je pense qu'il va falloir faire beaucoup mieux, parce que nos amis péruviens, ils vont pas nous faire de cadeaux, et il va falloir jouer beaucoup mieux. Et idem, si on veut espérer gagner une Coupe du Monde, aller en demi-finale ou tout ce que vous voulez. Une fois que vous arrivez face à des équipes comme l'Espagne ou comme le Portugal, je pense que ça va pas pardonner.
Bon, Arnaud, juste un petit mot. Vous étiez sur Roland Garros donc pendant une quinzaine. Un petit bilan avec notre ami Nadal qui a gagné son 11e Roland Garros, et puis Alep qui a enfin gagné chez les femmes.
Enfin, oui, Simona Alep, enfin après plusieurs tentatives, plusieurs échecs en finale. Voilà, c'est enfin une victoire, et c'est beau que ça arrive à Roland Garros, parce que mine de rien, elle a survolé cette quinzaine. Après, voilà, là aussi, j'étais quelque peu déçu par cette édition de Roland Garros. Mine de rien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une édition aussi faible. Il y a eu très très peu de surprises. Après, je vais revenir, mis à part le formidable Marcos Cecchinato. Voilà, c'était assez décevant comme Roland Garros. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Nadal a été un petit peu bousculé, mais sans plus. Voilà, il était pour moi un poil moins fort que les années précédentes, mais le problème, c'est que Nadal, qui a 15 longueurs d'avance sur tout le monde sur Terre, c'est toujours plus fort que les autres. Donc voilà, aujourd'hui, Roland Garros, c'est Nadal. On a plus de Federer qui vient, on a un Wawrinka blessé, on a un Djokovic en retour, on a un Murray forfait. Dominic Thiem qui est exceptionnel et qui un jour pour moi gagnera Roland Garros, mais on l'a vu en finale, un set et il est cramé. Il est cramé face à Nadal. Donc on cherche un petit peu la concurrence pour redonner de l'intérêt à ce tournoi, parce que dans les autres tournois du Grand Chelem, on a du suspense, alors que là, Roland Garros, malheureusement, on commence le tournoi, on a beau voir Nadal un petit peu bousculé, les conditions météo qui peuvent changer les matchs, et on Et on voit qu'à la fin, même en étant un petit peu moins fort que les années précédentes, Nadal est toujours bien au-dessus des autres et on voit pas qui peut l'arrêter. Donc on espère que ça change un petit peu parce que mine de rien, on se Roland Garros, il écrit son histoire. Mais moi, je trouve que ça semble un petit peu enlever l'intérêt. C'est comme un championnat de football où au bout de 4 journées, on connaît déjà le champion en fin de saison. Donc on espère que ça tourne un petit peu aussi. Ouais.
Alors Arnaud, c'est aussi parce qu'il n'y a pas français et de françaises régulièrement maintenant en deuxième semaine.
Ah bah là pour le coup j'ai été critiqué avec le Portugal, je me fais pardonner un petit peu aujourd'hui, mais là je me ferai pas pardonner. C'est le tennis français est au fond au possible. On a eu pendant une grosse dizaine d'années, on a déjà parlé dans Tribune Sport des sportifs. Hein. De nombreux sportifs français dans le top 15, dans le top 20, on a eu de bons joueurs, mais qui n'ont jamais été capables d'aller chercher de grands tournois. Et ben là, c'est pire que tout, on n'a même plus ces joueurs. Donc aujourd'hui, on s'attend à un Lucas Pouille qui est censé porter les couleurs de la France, nous faire gagner un tournoi du Grand Chelem. Bah, à l'image de tous ces Français, il n'y a pas de mental. Il n'y a plus personne. Et une fois qu'il faut jouer à la tête devant son public, il n'y a plus personne. Donc là, le tennis français, malheureusement, va en faire une grosse recomposition au niveau de nos joueurs, et ça va être le travail du DTN et du président de la Fédé, mais c'est décevant, c'est limite pitoyable, et heureusement qu'on a Caroline Garcia, mais qui une fois plus n'a pas été capable de jouer. Je sais pas si c'est mental, je sais pas si c'est physique, je sais pas si tout simplement elle est plus faible, mais le tennis français, malheureusement, on est dans les bas-fonds, et de se dire qu'une nation comme ça, en 35 ans, fait un tournoi du Grand Chelem, tandis que d'autres pays ont été capables de faire bien mieux, bah voilà. C'est décevant et ça fait peur. Franchement, ça fait peur pour l'avenir.
Bon, pour finir, on a quand même eu Herbert en double, hein, chez les hommes.
Ben c'est la petite touche bleu-blanc-rouge du tournoi. Ils sont habitués. C'est leur troisième tournoi du Grand Chelem après l'Open d'Australie et Wimbledon. Mais voilà, c'est la petite touche bleu-blanc-rouge. Mais malheureusement, je suis désolé, mais c'est pas ce qu'on attend. Et gagner un tournoi du Grand Chelem, faut le gagner chez les dames, faut le gagner chez les hommes. Mais les doubles, c'est sympa de le gagner. En plus, il y a eu des moments très sympas avec ces deux gars-là. Mais aujourd'hui, dans le tennis, on attend pour briller sur la scène internationale de gagner un tournoi majeur chez les hommes ou chez les femmes. Et c'est toujours pas le cas, donc bravo à Herbert et Mahut, mais très sincèrement, moi au niveau des Français, j'attendais pas la victoire d'un Français, hein, mais j'attendais qu'on ait un Français dans le tournoi masculin, notamment après le samedi, alors que en l'occurrence on a 2 semaines de tournoi, on est chez nous, c'est notre tournoi, et le samedi de la première semaine, il n'y a plus personne.
Merci Arnaud en tout cas, et puis à très bientôt Philippe. Dans nos studios, hein. Ok.
À très bientôt, à dimanche prochain.
Merci, au revoir. Voilà, allez, donc notre ami Arnaud qui était donc en province ce week-end. On va revenir donc sur le mondial et le groupe B. Donc on parlait de ce fabuleux match Portugal-Espagne 3-3. Il y a eu aussi quand même la défaite du Maroc 1-0 devant l'Iran. Ça, c'est quand même aussi un événement.
Ouais, dernière minute en plus. Bon, ouais. C'était.
Un coup à pas de chance. Hein.
Voilà.
Oui.
C'est
les incertitudes du sport.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, ça vous inspire un commentaire, l'Iran qui bat le Maroc?
Oui, c'est un premier match.
On attendait peut-être un peu mieux du Maroc quand même, l'équipe d'Hervé Renard.
Oui, on entendait beaucoup mieux parce que bon, Hervé Renard était bien remonté, mais bon, on verra au second match ce que ça donnera.
Le Maroc, j'ai envie de dire, c'est tout le temps pareil. Hein. À chaque fois, on en fait. On dit ça y est, c'est l'équipe, ça va être l'équipe à battre africaine, et tous les quatre, mais ils le disent eux-mêmes. Mm-hmm. Ils sont dégoûtés parce qu'à chaque fois qu'ils arrivent en compète.
Bon, là, ils sont tombés quand même dans un groupe difficile, l'Espagne, le Portugal.
Ouais,
non, mais Stéphane, ils pouvaient justement aller chercher une deuxième place.
Moi, je pense.
Le Portugal, justement,
ben, je pense, mais c'est vrai que cette journée, elle a été. Ouais. D'abord, on a vu un Portugal quand même qui a tenu la dragée haute à l'Espagne, et puis après on a vu le Maroc qui était incapable de battre l'Iran. Alors après on peut reprocher à l'Iran son style de jeu, le fait qu'ils aient été très très durs. Je pense que c'est l'équipe qui a mis le plus de coups pour l'instant jusqu'à maintenant dans cette Coupe du Monde, mais bon après c'est le foot, hein. ils ont joué bien avec sûr. Leurs moyens et ils ont gagné, puis le Maroc avait 50 fois l'occasion de mettre au moins un but, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Comme d'ailleurs, pour revenir sur le match, revenons sur Portugal-Espagne, je crois que c'est à 3-2, ils ont eu quand même plusieurs balles très 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 net de 4-2 les Espagnols. Hein.
Oui,
donc moi
sûr.
Je veux bien qu'on défende. Pour moi, le Portugal, si nous on est content d'avoir battu l'Australie, eux effectivement ils l'ont fait. La forme était meilleure. Il y a eu du jeu, mais franchement, ils peuvent être, à mon avis, très très heureux d'avoir arraché un.
Ronaldo l'a dit, hein, il a dit on est très content.
Ronaldo, quoi, c'est lui qui.
Ah ouais, et il a dit on est quand même content. On pensait perdre ce match, on est content déjà d'avoir pris le match nul. Hein.
C'est vrai qu'on pensait pas les Portugais revenir, hein, à 3-2. On ne les pensait pas revenir. Et justement, cette erreur, ce coup franc là, à quelques minutes de la fin, on sait que bon. On ne doit pas le faire.
J'allais dire manque d'expérience,
Si jamais on rencontre le Portugal, il est sur notre route, le Portugal, si j'arrive...
Très loin, je crois.
Non, je crois pas.
Parce que l'Espagne, ils sont sur notre route, si jamais...
Le parcours, c'est en huitième de finale, Argentine ou Croatie, donc ça risque peut-être de s'arrêter là si on n'a pas monté.
Ouais.
Et j'ai pas de... Le quart, je crois, peut-être Portugal en quart.
Portugal en quart.
Dans le cas où la logique est respectée, hein. Portugal en quart, Espagne en demi, après ça serait l'autre côté, Brésil, ça, je crois que c'est Brésil-Allemagne. L'autre demi-finale.
Alors, on a retrouvé l'Islande, pense, moi.
On a parlé du groupe A, B et C. Mmh. Alors, justement, l'Islande, on en vient. On l'a évoqué un peu tout à l'heure. 1-1 contre l'Argentine, quand même. Hein.
C'est l'Islande qu'on connaît maintenant, quoi, capable. Voilà, non, mais c'est une équipe qu'on a sous-estimée pendant des années. Enfin, qu'on n'a pas sous-estimée parce qu'elle n'avait pas le niveau.
Est-ce qu'ils vont être sur la durée? Ça, c'est plus dur aussi.
On a dit ça aussi.
Bien sûr.
Voilà, il fallait.
C'est des Vikings, hein, sur l'eau.
Voilà. Ouais. On a dit ça, ils se sont fait sortir par la France et encore difficilement, je crois. Hein.
On est pas. Non, facilement
5-2. Ah oui.
On perdait pas, mais c'est pas. Ah non, oui, 5-2.
Ouais.
5-2, c'est diamant, je crois.
On a battu l'Islande 5-2.
Ah d'accord.
Ouais, ouais. C'était facile. Bon, Lucky, Islande.
Ah bah moi, j'ai marqué que l'Islande passait. Alors mon père, il a rigolé. Je passe la Croatie plutôt. Moi, je pense plutôt à la Croatie.
Ouais, 2-0.
Il y a Croatie, Islande.
Non, Argentine. Et comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, je pense surtout, sinon effectivement, peut-être qu'il passera pas. Je pense surtout qu'il faut s'attendre à voir une équipe d'Argentine qui va évoluer.
Oui, il faut.
Mais s'il veut
enfin une grande Coupe du Monde.
Ouais. Et donc je pense que peut-être que même Messi va effectivement taper du poing sur la table.
Oui.
Et pardon, moi j'ai regardé le match et sincèrement, en ayant vu jouer Lo Celso toute la saison avec le Paris Saint-Germain, quand je vois Mascherano devant la défense et que Lo Celso est sur le banc, je suis stupéfait. Après, quand il y a même sur un match comme ça, Di Maria ou l'autre qui jouait de l'autre côté, Mesa, et que tu vois Dybala, un joueur comme Dybala sur le banc, et que ces joueurs-là ils rentrent pas une seconde, je pense forcément qu'il va y avoir des évolutions d'ici les prochains matchs et que l'Argentine elle va monter en puissance.
Moi je suis pas trop d'accord avec toi. Alors on va revenir sur le football local, mais je pense pas qu'il faille prendre les joueurs en exemple du PSG parce qu'ils jouent contre une des deux. En fait, ils jouent contre en Ligue 2.
Non, peut-être, mais non, peut-être.
En Ligue des Champions, d'accord.
Non, mais
du PSG,
d'accord.
En Ligue des Champions,
peut-être, mais j'ai suivi, donc ok, très bien. Donc j'enlève ces aspects, mais j'ai suivi quand même Lo Celso dans les matchs amicaux. Est-ce qu'il l'a fait jouer il l'a fait jouer pas mal de fois titulaire, notamment. Il a fait jouer Lo Celso et il s'est plutôt bien comporté aussi.
Il avait raté le match de coupe de club champion, c'est lui. Hein.
Ouais, quand il perd ce ballon là.
Il en perd pas qu'un d'ailleurs dans le match.
Bon, enfin bon, voilà. Allez, les matchs d'aujourd'hui là qui nous attendent, Costa Rica, Serbie, et puis on a aussi un Brésil-Suisse. Donc dans ce groupe, ça va être intéressant de voir le Brésil, dont on dit que ils sont très impressionnants. Série de matchs sans défaite.
Oui, il faut se méfier de la Suisse quand même.
Oui.
L'incompréhension totale de l'organisation mondiale du foot. La Suisse, parlez autour de vous à des gens qui connaissent pas suffisamment, mais qui connaissent bien, qui aiment ça. 6e nation mondiale. La Suisse est sixième nation mondiale. Citez-moi maintenant trois grands joueurs de l'équipe suisse.
Ouais, ouais, ouais.
Bah, c'est pas déjà à l'origine, ils sont suisses rattachés. Ouais. En fait. Ils signaient les passeports aux dernières minutes.
Mais c'est un truc de fou. Ouais, quoi. Ouais. Je veux dire, regarde les équipes, les premières, c'est l'Allemagne, le Brésil. On a le troisième, c'est qui le troisième? Bon, il y a l'Argentine, le Portugal, l'Espagne, la France, même l'Espagne est onzième, quelque chose comme ça. Et l'Allemagne, sixième équipe mondiale, quoi. Donc là, on a quand même le match, finalement, bon, c'est même encore plus serré sur le papier que Espagne-Portugal, quasiment.
Ah oui.
Et c'était le quatrième.
Sur le papier. Hein.
Sur le papier, c'est la deuxième équipe mondiale, le Brésil, qui va jouer la sixième. Oui. C'est-à-dire, c'est le plus gros choc de
une équipe qui a jamais dépassé un huitième de finale d'une compétition, hein, que c'est l'Euro ou le,
mais ça, c'est en fonction des matchs disputés, des classements. Enfin, je veux dire que s'ils font qu'un match et qu'ils gagnent dans l'année, et que l'autre, il en fait 15, voilà, donc,
c'est pour ça que le Pérou est très bien classé aussi. Ouais. Et parce qu'ils ont beaucoup, ils jouent beaucoup de matchs.
Mais ceci dit, l'équipe, ça reste quand même une équipe vicieuse qui joue, bon, qui est nettement, enfin logiquement, au-dessous du Brésil. Mais il faut s'attendre à tout.
Bon, on verra.
Comme dans une Coupe du Monde, toute façon. C'est pour ça que la logique, quand on parlait tout, le match d'hier de l'équipe de France, ça m'a pas surpris. Le match de l'équipe de France, ça m'a pas surpris. Didier Deschamps et ses joueurs, ils devaient prendre 3 points, ils les ont pris. Deschamps a fait les bons changements au moment où il fallait, quand même. Ça, faut le souligner. Hein. Bon, c'est tout. Fallait prendre 3 points, on les a pris, peu importe la manière, quoi.
Donc Allemagne-Mexique aussi, ça va être intéressant. On voit donc l'entrée en lice aujourd'hui des Allemands et demain Suède contre Corée du Sud.
Logiquement, les Allemands devraient l'emporter.
Le Mexique se joue. Hein.
Oui, mais.
C'est le premier match, ils sont comme nous, les Allemands.
Ouais.
Ils sont meilleurs, ils sont bons.
Parce que c'est des équipes qu'on joue très rarement, les Amériques du, l'Amérique du Sud ou l'Amérique centrale. On n'a pas de trop de références contre ces équipes-là.
Je pense qu'ils vont secouer un peu les Allemands. Ouais. Malgré que je sois assez pragmatique dans le football et que je pense un peu comme Lineker.
Allez, notre deuxième page de pub. On y va.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe, je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinturé, caillé. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
DMP Doc des Matériaux du Perret, votre spécialiste des matériaux de construction à votre service depuis 1996. Professionnel et particulier, DMP est distributeur et storiste des grandes marques pour tous vos matériaux, le bois au détail, le métal et l'outillage. DMP, c'est le conseil, la disponibilité et la livraison toute quantité. DMP Doc des Matériaux du Perret, 10 rue Roseau au Perret en Yvelines. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 18h, ainsi que le samedi de 8h à midi. DMP Doc des Matériaux du Perret, 01 30 46 30 97.
Et maintenant, retour des hits sur RVE. Je suis qu'un animal.
déguisé au matin. Et toi, je pourrais te faire mal. Je pourrais te blesser, oui. Dans la nuit qui frissonne, prends garde sous mon sang là.
Excepté naturellement ce match Espagne-Portugal qui a été le match phare de ce début de mondial, comment vous trouvez l'ensemble des matchs d'une façon, Stéphane? Les matchs sont fermés, les matchs.
Ben, c'est clair, de toute façon, tous les premiers matchs, toutes les premiers matchs de toutes les Coupes du Monde sont fermés. Il y a des équipes qui viennent sans nourrir d'autres grandes ambitions que de prendre des points, d'accrocher, d'avoir leur titre de noblesse. Et puis. Et puis voilà, donc on a vu avec l'Australie, hein, qui était, je pense, même très fier d'avoir fait ce résultat. Les Islandais pour leur premier match de Coupe du Monde, pareil, quoi. Donc bon, on va voir comment ça va se passer. Moi, je suis pas sûr, quoi, comme on en parlait à l'instant, je suis pas sûr de voir, par exemple, l'Australie au même niveau d'abnégation et de performance dans ces prochains matchs.
Voilà, un petit mot sur la cassette de Griezmann, c'est plutôt une bonne chose.
Après, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein.
Hein.
Ouais. Voilà. Ouais. Moi, personnellement, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Mmh. Dans le sens où elle a été faite, à part les 5 dernières minutes, bien longtemps avant, quoi, ou quelques temps avant. Il évite une conférence de presse où on va lui poser 50 questions. Pourquoi ça, pourquoi si, t'as prolongé, quel va être ton salaire, la revalorisation salariale, t'as eu des garanties sur le recrutement, tout ça. Il évite tout ça, c'est réglé, aimé, et puis maintenant on n'y pense plus, hop, place à la Coupe du Monde. Bon, on savait que c'était écrit, hein, que s'il ratait son match contre l'Australie, ça allait être le cas. on veut lui chercher.
Puis à la limite, moi je pense, enfin on s'en fout, quoi.
Oui. Un petit mot juste sur le foot. Donc, spécial mondial ce mois-ci.
Voilà, normal, on pouvait pas faire autrement. Oui, sinon, tous les mois, le foot, on retrouve le foot en kiosque. Hein. C'est devenu mensuel. Et puis, donc bien sûr, spécial mondial. Et puis sur les ambitions de l'équipe de France, notamment Griezmann, qui dit qu'il veut aller au bout, mais bon, il va pas dire aussi qu'il a envie de perdre au bout de 3 matchs.
Bien sûr. Lucky, il y avait un petit merci à dire.
Oui, j'ai un merci au parc naturel de la vallée de Chevreuse, également au club de SLSG de Senlis, qui m'ont créé une cagnotte sur Litchi, la deuxième.
Oui.
De manière à me faire passer l'hiver, en attendant éventuellement la reprise des travaux. Je parle de l'Ermitage, évidemment. Qui devrait normalement, avec un peu de chance, commencer au mois de septembre, d'après les nouvelles, dernières nouvelles, mais au moins les travaux de la part de l'ONF.
D'accord, ok.
Qui aussi avancent à la vitesse qu'ils peuvent, parce que c'est quand même un sacré chantier, quoi.
Voilà, et puis on va rappeler que c'est aussi un repère de match de foot. Hein,
un repère de match de foot, oui, c'était un repère de match de foot.
De la SSE.
En privé, de la SSE.
Très bien, et bien messieurs, merci. Bonne semaine de mondial, hein, et puis on
se reparle
donc dimanche prochain, en espérant encore des beaux matchs, et puis allez les bleus.
Ouais. Et une petite parenthèse, aujourd'hui il se court le prix de Diane à Chantilly,
oui.
À Chantilly qui est oui. Le championnat du
oui,
monde
des poules. Voilà, juste
une petite parenthèse.
C'est vrai, c'est un des rendez-vous les plus importants. Je crois qu'il y a eu le Jockey Club il y a quelques semaines. Et maintenant c'est le prix de Diane. Allez, bon dimanche à tous et à toutes. Merci à Jean-Pierre d'avoir été aux manettes ce matin. Et puis rendez-vous la semaine prochaine en configuration mondiale, 10h, 11h. Bon dimanche à toutes et à tous. Salut, merci.
Au revoir.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnut.